comment les gens lambda perçoivent Jésus. Pour nous aider, on avait donc un petit paquet de cartes plastifiées et sur chacune de ces cartes, il y avait une représentation de Jésus. Donc une représentation différente. Donc ça pouvait être par exemple Jésus version Simpson. Ça pouvait être Jésus avec une auréole, Jésus en tant que bébé, Jésus cloué sur la croix, Jésus, Rasta Jesus. Et en fait, les personnes devaient choisir trois cartes. Et ces trois cartes, c'était celles qui représentaient le mieux la vision qu'ils avaient de Jésus. Et ils devaient nous expliquer pourquoi. Avec mon binôme, on s'est rendu compte que les gens avaient tous une vision de Jésus différente, selon leur arrière-plan, selon les enseignements qu'ils avaient reçus dans leur enfance ou tout simplement les idées reçues. Par conséquent, l'accueil que chacun réservait à Jésus, ou pas d'ailleurs, était lié à cette vision qu'ils avaient de lui. En tout cas, une chose est sûre, quand on parle de Jésus, c'est que Jésus ne laisse personne indifférent. Et c'est vrai que ce soit à son époque, que ce soit dans l'histoire avec un grand H, ou que ce soit pour nous aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard. Dès qu'on parle de Jésus, les réactions fusent. Aimé ou haï, maître de pensée ou grand incompris, messie ou prophète. Cet après-midi, je vous propose donc une méditation sur un passage que l'on connaît bien. Peut-être même que l'on connaît trop bien pour certains. Je vous invite à prendre vos Bibles et à l'ouvrir dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Donc Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Luc 19, 28 à 40. Je vais lire dans la version Second 21. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ? » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Mais pourquoi le détachez-vous ? » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon avec eux. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples !» Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Cet épisode de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est relaté dans les quatre évangiles. C'est dire que c'est un événement incontournable. Et de plus d'une manière. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt que l'on s'attarde sur les différents groupes de personnes présents lors de cet événement. la foule, les disciples, les pharisiens. Chacun a un regard, une attente, des idées reçues sur Jésus. Et de ce fait, chacun va lui réserver un accueil différent. En ce dimanche des rameaux, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur le regard que nous portons sur Jésus. Quel accueil lui réservons-nous dans nos vies ? Toute mesure prise, Jésus était la rockstar du moment. Partout où il passait, il déchaînait les foules. Les gens se bousculaient pour être guéris ou l'écouter enseigner. Oui, c'est sûr, on peut dire que pendant 3 ans, Jésus n'a pas chômé, parcourant ville après ville, région après région, annonçant la venue du royaume de Dieu, enseignant, guérissant, exorcisant, multipliant les pains et les poissons, calmant des tempêtes. Il s'était fait une sacrée réputation. Donc, ce n'est pas surprenant qu'à son arrivée à Jérusalem, Jésus soit déjà entouré d'une grande foule. L'accueil réservé à Jésus, ce jour-là, est plus que positif. Jésus, comme le relate Jean, vient de ressusciter Lazare. Et l'information est passée aux oreilles des uns et des autres. Les Juifs, venus en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des cabanes et la Pâque, se retrouvent happés par cette tornade d'euphorie qui entoure l'arrivée de Jésus. Certains ont déjà entendu parler de lui, d'autres pas du tout, mais l'effet de la foule fait son effet et tous se mettent à l'acclamer. Étrange, cet effet de foule, vous ne trouvez pas ? En psychologie sociale, la foule est définie comme un rassemblement d'un très grand nombre de personnes dont les échanges sont réduits. Oui, là, les foules, en général, ils ne parlent pas trop entre eux. Et les individus sont sujets à une contagion des émotions. Des études ont en effet montré que l'effet de foule désinhibe un individu. Il se sent perdu dans la masse. Et du coup, ça le pousse à faire des choses qu'il n'aurait pas osé faire s'il était tout seul. Un exemple concret, la grève. Ça, on connaît bien. Les gens sont prompts à manifester, mais selon les cas, ils ne savent pas toujours exactement pourquoi ils manifestent. Ils suivent le mouvement. Il suffit d'une figure charismatique avec des arguments phares pour que les gens se mettent à scander leurs désaccords, pour qu'ils soient échauffés dans leurs esprits, pour qu'ils commettent parfois des actes de violence. En ce dimanche des rameaux, la foule crie « Hosanna ! Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur, le fils de David !» Dans une semaine, elle criera « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Crucifie-le !» Mais pour l'instant, Jésus arrive à Jérusalem, se présentant lui-même comme le Messie. En arrivant sur le dos d'un ânon, il réalise la prophétie de Zacharie 9. « Réjouis-toi, fille de Sion ! Lance des acclamations, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et Jésus reçoit un accueil digne d'un roi. La foule loue Dieu pour les miracles qu'il a faits. Elle crie « Hosanna !» Elle cite le psaume 118, un psaume qui annonce la venue du Messie. Et elle y ajoute même une touche personnelle en l'appelant « fils de David ». Les gens étendent leurs manteaux. Ils étendent des branches de palmiers sur son chemin. C'est un honneur digne d'un roi. Si l'on s'arrête là, tout est bien, qui finit bien. Les Juifs ont enfin reconnu Jésus comme Messie. Alléluia. En tout cas, tout porte à le croire. Alors, que demander de plus ? Mais, dans son évangile, Matthieu nous ramène brusquement à la réalité. En fait, ils n'ont rien compris. Les gens se demandent « Qui est cet homme ?» Et la foule répond « Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Non mais, c'était pas évident ? Eh ben non, c'était pas évident pour les gens qu'en fait il s'agissait du Messie. En se présentant sur son âne, Jésus ne correspond tout simplement pas à l'image du Messie qu'ils avaient en tête. C'est-à-dire un roi guerrier, un libérateur qui viendrait les délivrer du joug des Romains. Jésus est réaliste face à cet accueil. On peut lire dans Luc, dans les versets suivants, « Quand il approcha dans la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Jésus ne se fait pas d'illusions. Et nous, comment accueillons-nous Jésus dans nos vies ? Notre accueil pour Jésus dépend-il des attentes que nous avons de lui ? C'est-à-dire que nous l'accueillerons bien si nous voyons qu'il répond bien au schéma qu'on se fait de lui. S'il n'y répond pas bien, bah bon, dans ce cas, tu peux rester dans ton coin. Sommes-nous aussi changeants que cette foule ? J'ai bien peur que oui. Certains jours, nous accueillons Jésus comme roi, prêt à le louer pour ce qu'il fait dans nos vies, à le remercier, à le glorifier. Nous sommes tout feu, tout flamme. Jésus a répondu à mes prières. Alléluia ! Notre vie spirituelle est au top. Ça ne peut pas être mieux. D'autres jours, par contre, je dirais que nous faisons partie de ceux qui crucifient Jésus. Par nos actes, nos paroles ou nos pensées. Nous faisons des compromis, rechignons face aux épreuves, nous mettant même parfois en colère contre lui. Sans aller aussi loin, nous ne parlons pas à telle personne parce qu'il est différent. Nous passons devant un SDF sans plus aucun pincement au cœur, tellement il y en a. Nous négligeons nos malades. Ça vous choque ? Moi, oui, ça me choque. De me dire que je peux à la fois glorifier Jésus et en même temps le rejeter dans mes comportements. N'oublions pas que l'accueil que l'on réserve à Jésus passe aussi par l'accueil que nous réservons aux autres. Ce que vous avez fait au plus petit de ceux-là, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Et avec la journée du sel, on est parfaitement dans le thème. Frères et sœurs, en fait, ce que je crois, c'est que nous avons besoin de son aide, parce que nous sommes changeants, nous sommes inconstants. Que nous ne fassions pas partie de ceux qui crucifient Jésus. Nous arrivons à notre deuxième groupe de protagonistes, les disciples. Par définition, les personnes qui suivent Jésus et adhèrent à son enseignement. Il s'agit bien entendu des 12, mais pas que. Tout au long de son ministère, les disciples ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont entendu son enseignement. Ils ont vu Pierre reconnaître que Jésus est le Messie. Alors, dans notre épisode, Jésus envoie deux disciples chercher un ânon et leur donne des explications. Et tout se passe exactement, au petit détail près, comme il l'avait dit. J'imagine bien la conversation des disciples en ramenant l'âne. « Waouh ! Non mais t'as vu, c'est incroyable ! Tout s'est passé exactement comme il l'avait dit ! Ah, oh, il est fort quand même, hein, il est fort !» Nous avons beau savoir qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire, il n'en reste pas moins qu'il continue toujours à nous émerveiller. Et je pense que c'est ce qu'ont dû se dire les disciples ce jour-là. Après cet épisode, on n'entend plus parler des disciples. Sauf chez l'apôtre Jean. Il souligne une chose, une seule chose. Les disciples ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Après, il précise que c'est plus tard qu'ils comprendront, après le départ de Jésus auprès de son Père. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils voient, c'est que Jésus endosse enfin son rôle de Messie et qu'il reçoit les honneurs qui lui sont dus. Mais la portée de cet épisode, ils ne le comprennent pas. L'attitude des disciples nous donne une leçon d'humilité. Comme eux, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Du moins, pas tout de suite. Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et il y a encore des choses qui leur échappent. C'est dire. Ça me fait penser à Marc l'Expérience. Qui a vu Marc l'Expérience ici ? Ah, ça fait pas beaucoup de monde. Bon, bah, pour les autres, je vous invite vraiment à y aller quand ça se fera. C'est une pièce de théâtre donc, qui met en scène l'évangile de Marc. Moi, je l'ai vu pour la première fois il y a 7 ans. Et pour vous dire, je me souviens d'une chose qui m'avait marquée. Je m'en souviens bien. Les disciples avaient l'air de ne jamais rien comprendre à ce que Jésus leur racontait. Jésus, il disait un truc, et eux, ils haussaient les épaules, genre ils se regardaient et ils se disaient « T'as compris, toi ? Bah non, moi j'ai pas compris, et toi ? Bah non, bon bah on laisse tomber. » Et j'avais juste envie de me lever de ma chaise et de leur dire « Non mais vous êtes sérieux ?» C'est pourtant évident, là, ce que Jésus vient de vous dire, il vient de vous faire une révélation de fou, et vous, vous haussez les épaules. Puis j'ai réalisé qu'en fait, j'étais mal placée pour les juger. Car en fait, il y a tant de choses que je ne comprends pas, que je ne comprenais pas, pardon, et que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, que ce soit des passages bibliques, des situations dans ma vie, des comportements. Et mes grands-parents ne m'ont pas rassurée sur la question. Il semble que vieillir ne résout pas le problème. Heureusement pour nous, Jésus ne s'attend pas à ce que nous comprenions tout. S'il a fait preuve de patience envers ses disciples, il est également patient envers nous. Le principal dans notre aventure avec lui, c'est d'avancer et de lui faire confiance en acceptant nos limites. Pour autant, on ne doit pas voir ça comme une fatalité. Dans la Bible, nous sommes aussi appelés, en tant que chrétiens, à grandir dans notre connaissance et dans notre compréhension de Dieu, à ne pas relâcher nos efforts sur ce point. Et Dieu nous a donné des outils, nous ne sommes pas seuls, on est équipés. Il nous a donné sa parole, ce livre-là qui nous accompagne chaque jour, que nous devrions connaître. C'est pas grave. Merci. Et il nous a donné aussi son Saint-Esprit. Alors oui, il reste des choses que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne comprenons pas tout de suite ou que nous devrons attendre d'être au ciel avec lui pour comprendre. Mais il y en a d'autres que le Seigneur est prêt à nous révéler. Et celles-là, il faut prêter l'oreille pour les entendre et les comprendre. Il nous reste un dernier groupe à examiner. S'il y en a que la venue de Jésus à Jérusalem ne réjouit pas, c'est bien les pharisiens. Alors, Jésus qui débarque conformément à la prophétie de Zacharie sur le dos d'un ânon, ça n'arrange pas du tout leurs affaires. En gros, ça promet d'être une longue semaine pour eux. Il faut dire qu'entre Jésus et les pharisiens, c'est électrique depuis le début. La présence et l'enseignement de Jésus les ébranlent. Qui est ce gars qui débarque de nulle part et ose nous dire que nous, docteurs de la loi, nous n'avons rien compris à la loi? Et une chose est sûre, Jésus n'y va pas de main morte avec eux. Il les ébranle dans tout ce qu'ils croient vrai. Il critique leur légalisme. Il les confronte à la réalité. La loi dictée par Dieu est bonne. Mais dans leur zèle pour la suivre, ils en ont oublié son essence même. L'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Et au lieu de se remettre en question, les pharisiens bloquent. Ils font une barrière, barrage complet. Ils endurcissent leur cœur. En fait, ils sont juste piqués dans leur orgueil. Ils préfèrent penser que Jésus est un imposteur plutôt que de se remettre en question. Mais je crois que, en fait, le pire pour eux, c'est que les gens semblent aimer Jésus, accueillir son enseignement, croire en ce qu'il dit, ils le suivent partout, ils en parlent de plus en plus. À cet instant même, ils lui réservent un accueil digne d'un roi. Oui, les pharisiens sont inquiets. À leur goût, Jésus a beaucoup trop d'influence sur le peuple d'Israël. Et ils n'hésitent pas à le soulever. Puisque tu as tant d'influence, fais taire tes disciples. Mais là encore, Jésus ne va pas dans leur sens. Cet accueil lui revient de droit. Et si les gens se taisent, très bien, pas de souci. C'est les pierres qui l'acclameront. Parce qu'il est le Messie et non un imposteur. C'en est trop pour les pharisiens. Une seule solution s'impose. Il faut faire taire cet homme une fois pour toutes et limiter les dégâts. Se remettre en question, ça n'a rien de drôle. Que ce soit pour les pharisiens hier ou pour nous aujourd'hui. Dans la marche avec Christ, nous sommes appelés à nous remettre constamment en question, à nous laisser instruire, à revoir notre jugement sur une situation ou sur des choses qu'on pensait jusque-là acquises. Nous sommes appelés à nous laisser ébranler jour après jour par Christ et par son enseignement. Suivre Jésus, c'est tout sauf cela couler douce. C'est tout sauf rester dans son petit confort. Se remettre en question, ça n'a rien de drôle. Mais c'est comme ça que Jésus nous façonne à son image. Il nous travaille comme un tailleur travaille un diamant. À l'état brut, le diamant est un caillou cabossé, sale parfois, pas plus brillant que ça. Avant de finir sur une jolie bague de fiançailles, il doit passer par plusieurs étapes. Il est malmené dans tous les sens, il est scié, coupé en deux, poli, mais à la fin, le résultat en vaut la peine. Nous sommes des diamants à l'état brut. Et Jésus veut nous tailler pour nous amener à la perfection. Mais bien trop souvent, nous lui offrons un accueil plein de résistance. Parce que c'est clair, hein, se faire malmener dans tous les sens, c'est pas rigolo. Seulement, résister à ce que Jésus veut faire de nous, c'est comme essayer d'avancer contre un vent violent. Je sais pas, moi je viens du sud, alors on a le Mistral, c'est peut-être pas un vent violent, mais ça peut être un vent très fort. Et si on va à l'encontre du vent, c'est possible, hein, on avance, mais oh, on avance lentement et les pas sont lourds. Et finalement, à la fin de la journée, on est KO. Alors, mes frères et sœurs, quelles sont nos résistances ? Quelles sont ces choses qui nous empêchent d'offrir à Jésus la place qui est la sienne dans nos vies ? Une chose est sûre, Jésus ne laisse personne indifférent. Nous nous sommes arrêtés sur les regards portés sur Jésus, par la foule, par ses disciples, par les pharisiens. Aucun de ces groupes ne réagit pareil face à l'arrivée du Messie. Alors, si nous devions revoir ce sondage du GBU, que répondrions-nous ? Comment percevons-nous Jésus ? Un homme ? Un prophète ? Un ami ? Quelqu'un de lointain, distant, ou quelqu'un d'énigmatique ? Ou notre Sauveur et Seigneur, notre Roi ? La façon dont nous concevons Jésus dans nos vies détermine l'accueil que nous lui faisons. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous inviter à examiner en toute honnêteté le fond de notre cœur, à mettre les choses à plat devant lui, à ne rien lui cacher. C'est un travail de longue haleine, mais un effort qui en vaut la peine. Car accueillir Jésus dans nos vies n'est pas quelque chose que l'on fait ponctuellement ou une fois pour toutes. C'est encore et encore, jour après jour, que nous devons nous écrier : Jésus, sois mon roi et mon maître. Amen.